I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Maxime Dupuis et ce vendredi, je suis accompagné, on vous l'avait déjà dit la semaine dernière, de Cyril Morin.
Salut Maxime. Il y a des annonces qui sont faites les semaines précédentes.
Oui. Je ne sais plus, bon, ça a dû, Martin a dû dober sur les vacances de
comme souvent.
Les miennes.
Ouais.
Donc, je lui ai rappelé qu'il faisait une émission sur 25 ces derniers temps. Et la petite nouveauté, alors vous le verrez peut-être à la Real, qui sera peut-être de meilleure qualité cette semaine, c'est qu'Adrien Yo, le Real, n'est pas là parce qu'ils sont simplement partis faire un peu de ski, voilà, tranquille.
On l'appelle le Martin Scorsese du web.
C'est ça, voilà. C'est un peu, voyez, imaginez un peu le 20h de TF1. Il y a Gilles Boulot et le rédac chef qui se barrent comme ça et qui laissent les manettes comme ça. Donc tranquille, ils sont bien, ils sont au ski.
Et ils font ça en plus sur un week-end plutôt très léger. C'est-à-dire que c'est pas comme s'il y avait Milan-San Remo sur Eurosport ce week-end. C'est pas comme s'il y avait les demi-finales d'Indian Wells avec notamment Alcaraz Sinner qui donne envie à tout le monde. Voilà, mais le sens des responsabilités c'est pour ça. Ces gens-là. Ils connaissent pas, ils s'enfilent des raclettes et puis ils attendent de voir ce qui se passe. Et
si tu veux mon avis, on est entre nous. Ils nous écoutent pas. Ils iront pas loin. À un moment, ça coincera. Ça coincera forcément. Les responsabilités, les gars, il y a aucun sens du sacrifice. Là. Alors, à part si sacrifice, reprendre du fromage pour finir la raclette et remanger une patate, oui, là, il y a du monde. Mais à part ça, c'est comme ça.
On leur souhaite quand même des bonnes vacances et à tous ceux qui sont sur les pistes d'ailleurs.
Parce c'est ça, profitez-en bien. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils ont de la neige. J'ai entendu qu'il n'y a pas beaucoup de neige à la montagne.
T'es pas trop skieur, toi ?
Ah, pas du tout. Alors là, alors j'ai fait deux fois du ski dans ma vie. Une fois en classe de neige.
D'accord.
Ça s'était plutôt bien passé. Je me souviens skier sans les bâtons et j'avais bien aimé. En fait, il y a un moment, j'y suis pas retourné et j'y suis retourné à 20 ans.
Ah oui, quand tu es un grand. Ouais,
à la fac avec des potes. Alors, la semaine avait été géniale, sauf que ma femme, celle qui est devenue ma femme, je le raconte, n'avait jamais skié et elle est arrivée. Et en fait, mes copains, qui sont toujours d'ailleurs, ont dit dès le premier jour attends, on va monter quand même. Donc, elle s'est retrouvée sur des pistes qui étaient ingérables humainement pour elle. Alors, c'est la première fois qu'elle faisait du ski. Il n'y a même pas eu de formation en bas, fait le chasse-neige. Et ça a été une très très longue matinée quand il a fallu redescendre jusqu'en bas. Et j'avoue que ça l'a un peu vacciné du ski. Et comme moi, je n'étais pas non plus un grand fan. On a passé notre tour. Voilà.
Mais maintenant, tu le regardes à la télé.
Maintenant, je le regarde à la télé. Voilà. Et je suis toujours très impressionné. Moi, ce qui m'impressionne le plus, alors c'est très con, mais c'est les portillons de départ sur une descente et de voir le dénivelé qui est humainement impossible à
imaginer. Les skis dans le vide,
imaginer,
là.
Voilà, de dire que les mecs se lancent sur un mur. C'est-à-dire, ça me. Donc, immense respect à toutes les personnes qui ont osé une fois faire ça.
Ouais. On respecte aussi ceux qui préfèrent se dorer la pilule au restaurant d'altitude, ils se reconnaîtront. De quoi parlons-nous aujourd'hui, Maxime, dans l'UFC Stream Team ?
Eh ben, on va rebondir sur évidemment le tirage au sort de la Ligue des Champions qui vient de s'achever. On a eu le tirage au sort de la C4. On va faire un petit débrief tout simplement, tout bête. Des tirages évidemment du Paris Saint-Germain en C1, de Marseille en C3 et de Lille en C4.
On parlera ensuite de la grosse actualité des derniers jours autour des Jeux Olympiques. C'est la probable absence de Kylian Mbappé. Pourquoi ? Parce que le Real Madrid a signifié à la FFF qu'il ne libérerait aucun joueur en vue de l'échéance olympique. Et donc, Kylian Mbappé pourrait ne pas être libéré également. Est-ce que c'est préjudiciable ? Sans doute oui. Est-ce que ça s'appliquera à d'autres joueurs ? Et puis, on se posera aussi la question de savoir, tout bêtement, qui est-ce qui pourrait remplacer Mbappé ? Pas forcément en termes de talent, mais au moins numériquement parmi les trois joueurs de plus de 23 ans dont Thierry Henry peut appeler.
Et on restera sur l'équipe de France, on parlera des A. Jeudi, il y avait la conf de rentrée de l'année de Didier Deschamps qui a donné sa première liste de la saison. Et il a eu des petits mots doux pour Hubert Fournier, la DTN, au sujet des tirs au but. Voilà, vous savez que c'est devenu un mal français en fait. Et Hubert Fournier a dit qu'il fallait travailler là-dessus. Et en gros, Didier Deschamps n'a pas apprécié. Alors on expliquera un peu pourquoi. Et on essaiera un peu de distribuer les bons et les mauvais points dans toute cette histoire qui est un peu qui fait un peu tâche quand même, je trouve.
Un petit peu. Et qui ressemblait pas trop à Deschamps. Ouais. Dans ces moments-là, on a retrouvé le Deschamps offensif.
Ouais, c'est ça. C'est qu'il avait
et défensif quand même aussi. Ouais.
D'ailleurs, moi, je suis perturbé parce que comme pour cette semaine, vous le verrez sur les images, je suis à gauche, donc à droite sur l'image, j'ai pas les mêmes repères et c'est dur. C'est comme un peu
c'est
un
comme
axial,
latéral,
voilà, qui change de côté. Mais bon, ça va le faire.
Mais t'as trop de talent, Maxime, pour passer
non,
à côté.
Non, mais c'est
voilà,
c'est
l'expérience.
Je,
non, dire,
c'est
moment.
L'expérience. Je suis plus vieux, donc faut que je te mette dans les meilleures conditions. Donc on va faire comme ça.
Petit rappel, le FC Stream Team est à retrouver tous les vendredis sur vos plateformes d'écoute. Vous tapez Eurosport FC, et vous aurez en bonus le lundi Tour d'Europe. Et puis, si vous préférez la vidéo, rendez-vous sur l'application et sur le site pour retrouver les meilleurs extraits de cette émission. Et on va donc démarrer avec l'actu chaude, voire brûlante, Maxime. Les tirages au sort en Coupe d'Europe et notamment celui de la Ligue des Champions, puisque Paris attendait avec impatience le tirage au sort. Et le tirage au sort a encore été clément une nouvelle fois cette saison avec le FC Barcelone. Donc le match aller aura lieu au Parc des Princes le 9 ou le 10 avril, on ne sait pas encore précisément la date. Le retour la semaine d'après, non pas au Camp Nou mais à Montjuïc. Et la question qui s'impose de suite, est-ce que c'est un bon tirage, Maxime ?
C'est quand même pas un mauvais tirage. comme tu l'as dit, c'est un bon tirage. Alors, pour l'originalité, on repassera. Ouais. De toute façon, c'est comme ça, c'est la Ligue des Champions. Les plus riches arrivent le plus loin. Donc, on est un peu condamné à avoir ces tirages-là. C'est la 8e fois comme que le PSG retrouve le FC Barcelone, dont une fois en finale de Coupe des Coupes en 97. La 6e fois depuis QSI. La 5e fois sous QSI en élimination directe et la première fois depuis 2021, qui était la revanche de la remontada. On peut penser que le PSG est favori de cette double confrontation, parce que non pas parce que le PSG nous impressionne semaine après semaine, on sait que c'est une équipe qui est quand même sur courant alternatif, mais en face, il y a une équipe qui l'est peut-être encore plus, une équipe jeune, une équipe qui, paradoxalement, même si elle est jeune, est en fin de cycle, puisque Xavi va partir à la fin de la saison. Donc oui, en effet, ça aurait pu être pire. On reparlera des tableaux un peu plus tard, mais surtout quand on regarde de l'autre côté ce qu'il y avait, notamment un Real Madrid, Manchester City dès l'écart. Donc oui, sur le papier, honnêtement, ça ressemble quand même à un tirage plutôt clément. Et c'est marrant parce que c'est j'ai l'impression d'être revenu un peu en 2020, parce qu'ils ont tiré les tableaux, justement. Et on a quand même l'impression qu'il y a une partie de tableau qui est un peu plus difficile que l'autre. Et spoiler, c'est pas celle du PSG. Donc je pense qu'une demi-finale minimum, ça me paraît déjà un premier pas.
Bon, moi, je vais aller plus loin. Pour moi, avec ce tableau, Paris doit aller en finale, hein, tout simplement. Alors, c'est paradoxal parce que c'est l'année où Paris nous dit le plus que la Ligue des Champions n'est pas une obsession, qu'il y a la plus belle ouverture finalement sur
ça,
le
c'est
papier.
Quand on pense moins aux choses.
Exactement. Pour en revenir au FC Barcelone, tu l'as dit, club en reconstruction majeure, qui s'estime déjà très heureux d'être arrivé en quart de finale, qui a éliminé l'équipe de Naples, qui est quand même pas une équipe incroyable ces derniers temps. Et quand on regardait le tableau, on se disait bon, en gros, il faut pour Paris soit Dortmund, soit le Barça. C'est ce qui va se passer. Alors oui, il y a ce match retour à l'extérieur, mais avec Kylian Mbappé, le PSG a trop d'arguments supplémentaires ou en plus du FC Barcelone pour tomber dans ce piège-là. Et oui, ce sera une double confrontation peut-être ouverte avec... Voilà, il va y avoir le duel Xavi-Luis Enrique, mais Paris a quand même un cran d'avance à mes yeux. Et si on se projette sur la potentielle demi-finale, alors, entre Dortmund et l'Atlético, on donnera sûrement notre préférence à l'Atlético. Mais là encore, c'est ni Manchester City, c'est ni le Real Madrid, c'est ni le Bayern Munich, c'est ni même Arsenal. C'est très prenable. Ce sera dur, ce sera compliqué. Mais sur les dernières années, hormis 2020, on n'a pas vu Paris avoir un tirage aussi...
Il est clément.
Clément, enfin, voilà, tout simplement. Et où Paris fait office de favori... non pas en s'imaginant des choses, mais juste avec Kylian Mbappé, Paris a plus d'arguments que ces trois équipes-là, à savoir le Barça, l'Atlético et le PSV.
Après,
Dortmund, pardon.
Je mettrai un petit bémol quand même sur l'Atlético, parce que moi, dans les tirages qu'il fallait éviter, il y avait évidemment Manchester City, et je mettais l'Atlético pas loin, non pas parce que je dis que l'Atlético est du niveau de City, non. Mais vous savez, c'est toujours une histoire de match-up et de confrontation. Et je pense que l'Atlético a vraiment les armes, pour le coup, pour ennuyer le PSG. C'est-à-dire que c'est une équipe qui aime l'impact, qui aime le combat. Et s'il y a besoin de salir un peu le jeu, ils vont très bien le faire, ce que le PSG ne fait pas. Et on sait que le Paris Saint-Germain est une équipe qui, historiquement, sous QSI, n'aime pas le combat, tout simplement. Et au-delà d'historiquement, on l'a vu cette année, quant à Newcastle, il a fallu un peu mettre des taquets ou mettre des nions, il n'y a plus personne. Alors oui, Il y avait cette histoire, souvenez-vous d'ailleurs, c'est oublié, c'est du passé maintenant, cette histoire de jouer à quatre attaquants avec une composition très très baroque. Luis Enrique a laissé tomber, il a vu qu'il n'y avait aucun sens, il l'a lâché, il l'a continué un peu parce qu'il ne voulait pas montrer qu'il avait tort. Mais je pense quand même que l'Atlético, l'équipe du Cholo, l'équipe de Griezmann a quelque chose pour vraiment embêter ce Paris Saint-Germain, non pas le faire sortir de ses gonds, parce que déjà, c'est plus le sens de l'histoire avec cet Atlético-là, mais de le titiller vraiment tout ce qu'il faut. Et sur une demi-finale face au PSG, là, je serais beaucoup plus partagé, parce que je pense que l'Atlético a des ressorts un peu plus marqués pour aller loin.
On va pas faire le match face au Barça avant, mais pour répondre à ce que tu dis sur l'Atlético, je suis d'accord avec toi. Et ce sera sûrement plus compliqué face à l'Atlético, face au FC Barcelone. Il n'empêche, on le répète, c'est ni Manchester City, ni le Bayern. Enfin voilà, c'est une équipe qui est quand même beaucoup plus à la portée du Paris Saint-Germain et de ce qu'on a vu du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions cette saison. Ils ont réussi l'exploit de sortir l'Inter, qui était quand même une équipe qui valait mieux pas croiser en retrouvant des vertus qu'on leur connaît. Donc oui, ce sera très compliqué, mais Paris a de quoi faire face à l'Atlético aussi, alors que je pense que face à Manchester City, surtout en double confrontation, Paris n'aurait pas eu de quoi faire. Donc, c'est pour ça que je dis que le tableau est ouvert et on peut s'amuser, si tu veux, Maxime, à le simuler, ce tableau, parce que c'est un exercice qu'on aime toujours faire. Donc, si on reprend, c'est PSG, Barcelone d'un côté et donc Dortmund-Atlético. Donc c'est là, on se projetterait sur une demi-finale PSG-Atlético. De l'autre côté, et là, c'est quand même beaucoup plus costaud, Real Madrid-Manchester City et
Arsenal-Bayern
Munich.
Ça, c'est un vieux classique aussi, qu'on n'avait pas eu depuis longtemps à ce niveau-là. Moi, je donne avantage Bayern quand même.
Ouais, et côté City, avantage City aussi, surtout quand on se souvient de la démonstration collective qu'ils avaient infligée au Bayern, au Real Madrid pardon, la saison passée.
Et c'est la troisième saison de suite qu'il se joue, d'ailleurs.
C'est vrai, c'est vrai, tout à fait.
Et demi. Donc là, pareil, c'est un classique des classiques, mais en même temps, c'est une super ligue, on va se mentir. Donc après, pour le coup, ça, c'est du plaisir.
Et ce qui nous donnerait des demi, donc PSG-Atlético de Madrid, Manchester City-Bayern-Munich, et potentiellement, allez, si on t'écoute, Maxime, une finale Atlético-Manchester City.
Ouais, moi, je pense qu'on irait plus vers ça.
Victoire de l'Atlético, les Bleus gagnent l'Euro et Antoine Griezmann est Ballon d'Or.
Et il va jouer les Jeux Olympiques.
Et voilà, en plus.
La saison parfaite. Non, mais alors là, c'est vraiment le cœur qui parle. C'est vraiment que l'Atlético, c'est une équipe, j'aimerais bien qu'elle finisse par décrocher la timbale.
Il y aurait une forme de logique.
Voilà, elle a perdu 3 finales dans son histoire, dont 2 avec Simeone 2014-2016. Pour pas grand-chose, souvenez-vous, 2014, le coup de tête de Ramos, 2016 est sur but. Et voilà, c'est une équipe qui, ça me fait penser un peu au Chelsea de l'époque de 2012, qui à un moment arrive, alors c'est une équipe qui s'est plus renouvelée évidemment que le Chelsea 2012, mais qui arrive à un moment de son histoire, on se dit, allez, il faudrait que ça marche, et c'est vrai que pour tamponner le passage de Griezmann et surtout Simeone, de dire cette équipe aille au bout, mais bon, pareil, bon courage.
Et c'est vrai que le plus fort, ce serait de se dire qu'ils atteignent une troisième finale après 2016 et 2018, qui commencent à remonter quand même beaucoup, d'avoir réussi à se réinventer, je mets des guillemets, parce que voilà, tu l'as dit, la recette reste quand même basée sur l'intensité et sur les cojones, pour utiliser un mot espagnol, mais malgré tout, ça dirait beaucoup de choses sur l'intelligence du Cholo Simeone, sur sa capacité d'adaptation incroyable.
Et l'intelligence du club aussi de pas le virer parce qu'il ne gagne pas tous les ans. Quand on voit, alors là, c'est vraiment l'aparté, et c'est absolument pas comparable en termes d'échelle, mais quand on voit que Farioli à Nice est contesté parce qu'il a raté les 2 derniers mois alors qu'il vient d'arriver, alors que c'est censé être des projets à long terme, on a envie de leur dire aux Niçois, mais si vous l'avez choisi, c'est qu'a priori vous croyez en lui, donc ne le gardez pas 6 mois, le type. Il y a un moment, il faut aussi avoir ça. Et c'est bien que des clubs, justement, ce serait marrant d'ailleurs que ce soit Atlético, Manchester City, ça serait des types qui ont des entraîneurs en poste depuis des plombes, dire que bah voilà, à un moment, évidemment, il faut de l'argent aussi s'il y en a. Mais à un moment, ça paye aussi quand on travaille bien et quand on travaille dans la distance, dans la longueur.
Voilà pour ce petit débrief Ligue des Champions. On rappellera, et on l'a pas évoqué, mais c'est quand même le retour aussi de Luis Enrique face au FC Barcelone. Ce sera évidemment un axe majeur dans les jours entourant le match. Il va y avoir ce duel face à Xavi, qui a donc annoncé son départ. Et d'ailleurs, Xavi, il a fait un peu une Luis Enrique version 2017. Et pour l'instant, ça porte aussi ses fruits, parce que le Barça est en net redressement. Et il faudra se méfier de cette équipe-là, qui a quand même du talent. Il y a encore Pedri, il y a encore Lewandowski, il y a Yamal. Mais encore une fois, sur le papier, Paris est à la place.
Et l'autre clin d'œil éventuel, ce serait Mbappé qui pourrait très bien jouer contre la Real Sociedad, le FC Barcelone, peut-être l'Atlético Madrid, voire le Real en finale. Donc, il ferait le tour d'Espagne avant d'arriver en Liga. Donc, il connaîtrait les lieux plutôt pas mal.
Peut-être un petit mot des autres tirages, Maxime, puisqu'on a vu en C3 que le sort a réservé à l'Olympique de Marseille, qui est passé proche de la catastrophe même jeudi soir. Un tirage là aussi, on va pas dire clément, mais abordable avec Benfica Lisbonne. Ça t'inspire des choses autres que des considérations historiques ?
Oui, bah non, justement, c'est Vata, évidemment. Non, mais ça aurait pu être pire, là, ce que tu as dit. Sachant qu'il y avait notamment Liverpool ou la Roma, bon, l'AC Milan, donc ils sont passés à côté de ça. Mais.
Le frisson européen au vélodrome de
voilà,
façon,
c'est ça. Rien que pour cette soirée. Il va falloir vivre ça. Mais c'est vrai que, vu ce qui s'est passé à Villarreal, ça a un peu refroidi les Marseillais qui restaient sur, évidemment, les super débuts de Gasset. Mmh. Est-ce que cette équipe peut aller au bout ? Est-ce qu'elle peut passer Benfica ? Je dirais oui. Est-ce qu'elle peut aller plus loin après ? Ce sera plus compliqué, puisque a priori, ce serait Liverpool sur le chemin des Marseillais. Donc là, ça deviendrait quand même assez difficile.
Et on terminera en précisant que Lille a tiré Aston Villa. Et ça, c'est vraiment pas un cadeau, même si c'est plus exactement l'équipe qui marchait sur la première ligue il y a quelques mois. Ça reste très, très costaud, emmené par Unai Emery. Donc, tirage très compliqué pour les Lillois. Mais déjà, se dire qu'on a trois clubs français en quart et qu'on puisse débriefer ces tirages-là, c'est plutôt plaisant.
Ouais,
et qu'on puisse se projeter aussi un petit
peu. C'est ça, parce que normalement, l'année dernière, on aurait eu juste Nice à vous donner. C'était moins fascinant que de parler du Paris Saint-Germain, de Marseille et de Lille. Donc, plutôt un bon cru, quoi qu'il arrive.
Maxime, on va basculer après ce débrief du tirage au sort de la Ligue des Champions et des autres compétitions européennes sur un événement de l'été, qu'on le veuille ou non, c'est les Jeux Olympiques. Ils seront d'ailleurs à suivre en intégralité sur Eurosport. Abonnez-vous pour suivre toutes les épreuves. Je sais que toi, Maxime, tu es fan de tir à l'arc notamment et que c'est pour ça que tu...
Non, et puis il faut savoir une chose, je le dis ici parce qu'il faut en parler. Il n'y a que sur Eurosport que vous aurez les Jeux en intégralité.
Ouais, tout à fait.
C'est-à-dire que là, si vous voulez voir tout, c'est Eurosport et nulle part ailleurs.
Malheureusement, la transition n'est pas très heureuse, mais on a appris ces dernières heures qu'une star mondiale qu'on pensait garantie dans ces JO pourrait être absente, c'est Kylian Mbappé. Comment c'est né ? En fait, c'est né d'abord d'un article de l'équipe pour les citer qui nous expliquait que Mbappé s'éloignait un petit peu de la sélection olympique pour les Jeux. Vous savez que Thierry Henry, qui est le sélectionneur des espoirs, va diriger cette sélection. Il aura le droit d'appeler trois joueurs de plus de 23 ans. Et on pensait qu'un des spots était réservé à Kylian Mbappé. En fait, l'équipe nous a révélé ce vendredi que le Real Madrid avait averti la FFF qu'elle ne mettrait pas à disposition ses joueurs, puisque vous le savez, ce n'est pas une date FIFA. Donc, les clubs n'ont aucune obligation de mettre à disposition leurs joueurs pour l'équipe olympique. Et que donc, cela concernait Tchouaméni, Kamavinga, Ferland Mendy et très probablement Kylian Mbappé, qui en plus devrait participer à une tournée promotionnelle avec le Real Madrid. Est-ce que déjà, Maxime, cette nouvelle te surprend et qu'est-ce que ça t'inspire, tout simplement ?
Alors, est-ce qu'elle me surprend ? Moi, un petit peu, parce que je pensais que, justement, que dans la balance de l'arrivée de Mbappé potentiel, parce qu'il n'a pas signé encore au Real Madrid, il y aurait évidemment les JO. Je pensais que le joueur aurait le pouvoir, de, non pas d'imposer, mais de dire, voilà, moi, c'est un rêve, j'ai envie de jouer les JO, donc j'y vais, j'arrive après. Quand on se met à la place du Real Madrid, en effet, déjà, il y a une chose qui est importante qu'il faut signaler, c'est que l'Espagne est qualifiée pour les JO. Mais le Real a une chance, entre guillemets, je ne sais pas si c'est une chance, mais c'est qu'il n'y a pas de U21, U23 qui vont aller au JO. Donc, c'est beaucoup plus simple pour le Real de refuser aux joueurs étrangers d'y aller. Le Brésil ne va pas au JO, donc ça n'empêche pas Vinicius d'être là. Enfin, voilà, je veux dire, pour eux, il y a que les planètes s'alignent. Et il y avait que finalement les Français qui étaient un caillou dans leurs chaussures. A priori, ils l'ont réglé. Est-ce que ça aurait fait capoter le transfert de Mbappé qu'il aille au JO ? Non, bah non, évidemment, parce que le Real a besoin de Mbappé et Mbappé a très envie du Real. Maintenant, je pense que derrière, il y a sûrement une histoire de prime et aussi de prise de guerre, c'est-à-dire que la prime à la signature sera sûrement meilleure avec un Mbappé qui vient là dès le début et que le Real, évidemment, vous achetez le meilleur joueur du monde ou celui qui est considéré comme tel, vous faites une première tournée aux États-Unis. ça fait tâche, il n'est pas là. Donc j'arrive à comprendre, même si je le comprends, même si ce n'est pas ma vision du football et je préférais qu'il en soit autrement. Mais j'arrive à comprendre. Mais après, la petite chose qu'on peut se dire maintenant, la petite ironie, c'est que si Mbappé, à mon avis, si Mbappé était déjà au Real depuis 2 ans, il aurait fait les Jeux. Parce que ce n'est pas la même situation. Il était installé. Voilà, donc je ne sais pas si... Il se dira qu'il a eu raison de rester 2 ans de plus au PSG. Ça, on le saura à la fin de la saison. Mais en tout cas, il peut au moins avoir des petits regrets là-dessus. Après, il y a autre chose. Et ça, on en avait parlé dès 2021, l'Euro et les Jeux, quand on commençait à parler des joueurs. En vrai, l'enchaînement, il n'est pas souhaitable. Et ce qui est marrant, c'est que historiquement, alors déjà, historiquement, avant, ce n'était pas des A qui allaient faire les Jeux. Avant, c'était des amateurs, etc. Et il y a eu un moment où on a dit que c'était les jeunes, donc les moins de 23 ans. Et pendant très longtemps, alors l'équipe de France a loupé les JO, mais si vous prenez les JO 96, qui étaient les derniers où les Bleus s'étaient qualifiés, à Atlanta, il n'y avait aucun international A, enfin du moins quelqu'un qui avait joué l'Euro. C'était convenu que si vous jouiez l'Euro, vous n'enchaîniez pas. Et là, maintenant, on est dans un espèce de paradoxe, c'est-à-dire qu'il y a certains joueurs qui veulent tout jouer, tout croquer, au dépens, finalement, peut-être de leur santé. Parce que là, ça annonce quand même d'enchaîner l'Euro et les Jeux, c'est-à-dire de jouer peut-être jusqu'au 10 ou 14 juillet s'ils vont en demi ou en finale, et d'enchaîner le 24 avec le premier match et d'aller jusqu'au... je crois que la finale, c'est le 10 août. Donc, en gros, c'est une saison qui est interminable. Donc, il y a ce paradoxe-là aussi d'un football qui joue trop et des joueurs qui veulent mettre aussi la main sur toutes les compètes, alors qu'avant, les JO... Alors, évidemment, il y a l'effet d'aubaine, c'est à Paris, etc. Mais avant, les JO, c'était réservé aux jeunes, tout simplement, et personne ne s'en occupait. Et ça a pris une importance
Mais l'importance qu'elle a prise, c'est juste lié au lieu. Voilà, c'est que c'est à Paris cette année.
Oui, oui, tu as raison. Mais... Bah, Neymar à Rio, etc.
Voilà,
mais quand
exactement.
Même, on a vu Messi jouer les Jeux de Pékin. Enfin, il était jeune.
C'était au tout début, ouais. Mais... Non, mais ouais. En fait, ce qui est dur à assumer publiquement, et même si Didier Deschamps l'a dit un petit peu hier, mais c'est dur à dire, Franco, la priorité de la FFF, mais ce n'est pas du tout les JO de Paris, c'est évidemment l'Euro 2021. L'Euro 2024. Et que les JO, oui, ils ont pris une prise de guerre avec Thierry Henry pour faire parler de l'équipe de France. Mais disons qu'entre un titre à l'Euro et un titre au JO, le choix, il est vite fait. Et c'est dur à faire entendre peut-être au grand public. Et c'est aussi quelque chose qu'on peut ajouter dans le cas Kylian Mbappé. Peut-être que des gens vont lui reprocher le fait de ne pas pousser auprès du Real pour jouer cette compétition-là. On l'a dit, il y a beaucoup de limites physiques et physiologiques. Et puis même pour Kylian Mbappé, on lui reproche déjà suffisamment au Paris Saint-Germain parfois d'avoir été trop grand par rapport au club, etc. Là, s'il arrive au Real Madrid et qu'il dit « Attendez, je vais faire à ma façon », mais ça va pas, ce n'est pas possible. Vraiment, ce n'est pas possible. Donc finalement, il y a une forme de logique. Et moi, tout ça, ça m'annonce quand même quelque chose un petit peu. C'est que c'est un petit peu la fin du rêve. Et c'est ce que Thierry Henry a rappelé hier en conférence de presse. C'est que ce sont les clubs qui décident. Il faut qu'on ait vraiment tout ça en tête. Les clubs étrangers, que ce soit à Paris, que ce soit à Pyeongchang, que ce soit à Tokyo, ils n'en ont pas grand-chose à cirer. Et le fait que ce soit à Paris, ça ne va pas rentrer en ligne de compte pour eux. Donc, ce qui vaut pour Mbappé peut valoir pour un Konaté, pour un Upamecano, pour tous les joueurs qui vont être sélectionnés pour l'Euro, finalement. Peut-être que les clubs français, et c'est un petit peu ce que dessinait hier Didier Deschamps en conférence de presse, les clubs français vont faire un peu plus l'effort qu'en 2021. Mais il ne faut pas s'imaginer avoir une équipe d'Avengers avec tous les meilleurs joueurs possibles et grosso modo voir l'équipe qu'on a à l'Euro qui sera alignée au JO. Ce n'est pas possible. Donc voilà, il y a encore les cas Griezmann et Giroud qui, eux, sont des cas particuliers finalement. Griezmann, parce que je pense que s'il demande à Cholo Simeone, ça devrait pouvoir se faire.
Au service rendu.
Et Giroud, parce que là aussi, il est dans une situation contractuelle avec le Milan... qui peut se discuter. Voilà. Je pense qu'il y a plus de place pour ces deux cas-là que pour le cas Mbappé, où il y a des enjeux qui dépassent et Mbappé et l'équipe de France Olympique.
Non, mais c'est ça. Ils sont dans une situation différente. Je parlais tout à l'heure, j'étais taquin sur Mbappé s'il avait signé au Real il y a 2 ans. Eux, ils sont dans cette situation-là d'être dans un club déjà installé et de se dire, bon, on peut faire une petite entorse, vous n'êtes pas sûr d'être FIFA, et de vous envoyer au JO parce que, entre guillemets, ça vous fait plaisir et ça vous fera du bien, etc. Voilà. Mbappé, lui, il arrive dans un nouveau club. Encore une fois, il y a trop d'enjeux autour de lui financiers. Et le Real aussi va sûrement lui faire comprendre que oui, on fait un investissement sur toi. Ouais. Donc, il faut un retour sur investissement. Et le retour sur investissement, il faut que tu sois là. Parce qu'on n'a pas parlé de ça. Alors, ça lui arrive très rarement. Imaginez qu'il se blesse.
Le drame pour
le Real. Voilà, encore une fois, moi, j'adorerais... Je ne parle pas encore au passé. J'adorerais voir Mbappé au JO. j'ai envie de croire qu'il y a encore un tout petit peu de chance. Mais oui, en effet, ce sera très compliqué. Et tu le disais, pour les clubs, les clubs étrangers se retrouvent dans la situation des clubs français avant Tokyo.
Ouais, exactement.
C'est-à-dire que, ils s'en foutent, tout simplement. Moi, je me souviens, je l'avais dit juste après, on avait fait une émission, on en avait parlé. On savait déjà qu'en 2024, ce serait pas tenable pour un club français de dire non. Parce que là, vous avez toute la pression du pays, ouais. Toute la pression quotidienne. Vous pouvez pas refuser d'envoyer vos joueurs. Donc, les joueurs qui jouent en France, ils seront au JO. Hormis peut-être, un cas ou deux parce qu'un gars est un peu blessé ou un gars n'est pas dans une forme physique. Le club dira non, mais on préfère pas le libérer. Mais les clubs ne peuvent pas se donner le mauvais rôle. Le Real Madrid, on va pas se mentir, ils s'en foutent complètement. Et royalement, d'ailleurs. Donc, je pense que pour eux, ce sera réglé. Donc, on peut imaginer, donc, Griezmann, Giroud. Et s'il n'y a pas Mbappé, est-ce qu'il faut en emmener un troisième? Et si on en emmène un troisième de plus de 23, qui?
C'est toute la question, Maxime. C'est assez dur, en fait. On s'est penché sur des profils naturels, logiques. On a fait une petite liste, elle n'est pas du tout complète. Mais,
on a essayé de prendre des candidats plausibles, et justement, voilà. Pas à reprendre des mecs du Real Madrid ou des exactement. Clubs comme ça qui ne les libéreront pas.
Le premier, c'est Raphaël Varane. Ouais. Il a arrêté sa carrière internationale après la Coupe du Monde 2022. Il joue un petit peu plus récemment, ouais. À Manchester United. Je ne suis pas sûr que Manchester United sera très, très regardant pour le libérer à cette date-là. Ouais. Et d'ailleurs, on ne sait toujours pas s'il restera à l'issue de cette saison chez les Red Devils. C'est malgré tout un grand nom du football français. Il y a une forme de logique de par l'héritage qu'il laisse, et de par son expérience aussi, de ce qu'il peut apporter à l'équipe. Ça pourrait être lui. Après, il n'a pas fait acte de candidature. Ça ne lui ressemble pas trop, de toute façon. Mais c'est une possibilité.
Mais c'était un des noms qui s'imposait la première fois qu'on a pensé au jeu, en fait, simplement. Dire, qui c'est qu'on peut emmener? Il y a un peu aussi le côté service rendu. Et puis, dans notre esprit, à l'époque et toujours aujourd'hui, il n'est pas vieux. Ouais. Il est de 93, donc c'est un joueur. En plus, on ne va pas emmener un mec de 40 ans pour le faire plaisir. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui, techniquement, est normalement dans son prime. Ce serait une solution, en effet, parce qu'en plus, il aurait ce côté expérience, grand frère, dans un groupe, et ça peut toujours aider. Mais comme tu l'as dit, il n'a pas fait acte de candidature, donc ça me paraît peu plausible. Un autre
Il a carrément refusé sa candidature.
Carrément. Lui, c'était un peu comme le Varane, on aurait pu dire. Hugo Lloris. Alors lui, le problème, c'est qu'il a signé dans un nouveau club à Los Angeles et que justement, la saison, elle est de printemps à hiver. Que lui, il a carrément dit non. Alors, c'est vrai qu'en plus, dans les buts, il y aura notamment Lucas Chevalier, peut-être. Il y a du monde. Lui aussi aurait eu une bonne tête de grand frère pour service rendu, mais a priori, ce ne sera pas lui non plus.
Il y a un autre nom, et là, pour le coup, il s'est porté candidat. Ouais. Il représente quelque chose, qu'on le veuille ou non. C'est Dimitri Payet, qui joue désormais au Brésil. Peut-être une petite limite à sa candidature, c'est qu'on est quand même essentiellement dans la zone d'Antoine Griezmann, et que si Antoine Griezmann est là, est-ce qu'avoir Dimitri Payet et lui donner les clés du jeu, c'est forcément intéressant? Je ne sais pas, mais par ce qu'il représente et par son passé aussi en équipe de France, ça pourrait être un candidat naturel. Il y en a d'autres, et là c'est un autre petit clin d'œil, c'est récompenser ceux qui ont été là en 2021.
Ouais.
Il y avait trois joueurs, Florian Thauvin, André-Pierre Gignac, TJ Savagnier, un de ces trois-là pourrait encore être candidat.
Ah, pourquoi ces trois-là? Parce que eux, ils avaient fait l'effort de venir en 2021, ouais. Et on l'aura. Moi, j'ai trouvé ça d'une injustice absolue en 2021 de taper sur tout le monde, alors que ceux qui laissaient les absents qui avaient tort. C'est-à-dire que les mecs qui ne sont pas venus, ou les clubs qui ne les ont pas lâchés, eux, ils ont fait ce qu'il fallait pour être libérés, ils ont fait de leur mieux, c'était pas terrible. Mais encore une fois, je trouve que eux, on les a balancés en première ligne face aux tireurs en face, et il n'y a plus qu'à les shooter. Donc ce serait sympa. Et je rajoute pour Payet, alors on n'est pas là, c'est le problème, on n'est pas là pour le mérite. Payet est, on peut dire compétitif. Alors évidemment, le niveau de championnat du Brésil, c'est à voir, etc. Il est aujourd'hui compétitif. Et le clin d'œil, ce serait de dire, tu rates la Coupe du Monde 2018 sur, en gros, on le sait maintenant, qu'il se blesse la veille en finale de la C3 avec Marseille, qui devait être dans la liste de Deschamps le lendemain. Ah, il y aurait ce petit symbole, Alors, tu l'as dit, Payet, Griezmann. Mais bon, Griezmann, il peut jouer partout.
Oui, c'est vrai. Il y a un dernier nom qu'on a mis là, mais bon, on n'y croit pas trop, pour être sincère. C'est Alexandre Lacazette. Ouais, voilà, parce qu'on parlait de marquer des buts en parlant de Kylian Mbappé. Lacazette, il sait faire. Là aussi, s'il y a Giroud, est-ce que c'est forcément lui qui est le plus attendu? Un autre nom et un autre Lyonnais, peut-être un Corentin Tolisso, qui lui incarnerait un peu l'esprit 2018, en plus de Griezmann et Giroud. C'est une possibilité, mais en tout cas... c'est difficile de voir un candidat naturel en fait émaner, et peut-être que ça peut être aussi un, je prends l'exemple d'un Jordan Veretout en tout cas, ou un Youssouf Fofana, un joueur qui passerait pas le cut pour l'Euro, mais qui a un niveau international clair, pourrait être le troisième.
Matteo Guendouzi qui fait une bonne saison, exactement, pourquoi pas. Mais je serais pas étonné qu'il parte à deux finalement, si y en a pas trois. Faut pas en prendre trois pour en prendre trois, voilà, simplement. S'il n'y a pas un profil qui se détache, si c'est juste, entre guillemets, Griezmann et Giroud, déjà, c'est pas mal.
Non, mais on ne va pas se mentir, Maxime, le profil idéal, c'était Paul Pogba.
Oui,
Paul c'était Pogba, celui que ça aurait été le plus logique de par son vécu avec les Bleus. Mais on ne va pas refaire le débat Paul Pogba que vous avez fait il n'y a pas si longtemps avec Martin, mais ça aurait eu une forme de logique assez implacable de voir Polo avec les Bleus olympiques.
En fait, ce qui est drôle, je ne sais pas si c'est drôle, mais si on reprend ce débat-là et qu'on fait depuis au moins 2 ans, c'est de se dire qui va y aller. Et à un moment, au début, on avait un trop-plein de joueurs. Ah, il y a lui, mais lui aussi mérite. On se rend compte que vous voyez, c'est pour ça, il faut toujours attendre. Il y en a qui s'éliminent d'eux-mêmes, il y en a qui disparaissent de la circulation, il y en a qui ne peuvent pas y aller. Et on se retrouve maintenant presque à une situation où on se dit on n'est pas sûr d'en avoir trois.
Et il faudra aussi surveiller aussi le mercato pour ça, parce que on le sait, les jeunes joueurs français ont une grosse cote sur le marché. Est-ce que, je prends l'exemple de Cherki, même s'il n'est pas dans la dernière liste, mais si un Ryan Cherki signe dans un club étranger demain, est-ce que le club étranger va être d'accord pour le laisser à disposition de l'équipe olympique? C'est une autre question.
Mais c'est la pire liste à faire, parce que c'est pas des dates FIFA, donc en gros c'est quasiment une liste où vous devez biffer des noms parce que vous n'avez pas le droit de les prendre, alors que quand vous êtes sélectionneur DA, vous prenez qui vous voulez. Les clubs sont obligés de vous les mettre à disposition.
On va parler maintenant, Maxime, pour terminer ce FC Stream Team, des dates FIFA justement, puisqu'on va entrer la semaine prochaine en période de trêve internationale. Les Bleus joueront contre l'Allemagne et le Chili. Ce sera samedi et mardi. Et donc, Didier Deschamps était présent jeudi à Clairefontaine pour dresser une liste. Pas de grande surprise. Diaby qui revient, Adrien Rabiot qui sera là. Et finalement, on a parlé plus d'un sujet et d'une sortie. C'est celle de Didier Deschamps. Très offensif, sur la défensive, mais très offensif envers Hubert Fournier, le DTN. Pourquoi ? Parce que Hubert Fournier, après les différents épisodes et les différents échecs des équipes de France dans les séances de tir au but, avait dit que c'était un sujet qu'il fallait travailler, qu'il allait mettre des choses en place, etc. Et Didier Deschamps a été interrogé hier et il a été très véhément, expliquant qu'il avait trouvé ça déplacé, voire même irrespectueux, la sortie d'Hubert Fournier. On connaît un petit peu la position de Didier Deschamps sur cette question des tirs au but. Sa philosophie, c'est que c'est impossible de reproduire à l'entraînement ce qui se passe en match. Et c'est vrai, quand on regarde le scénario de la finale face à l'Argentine, c'est difficile de le contredire, de prévoir cette liste de tireurs-là. C'était impossible. Malgré tout, est-ce que tu trouves qu'il a eu raison, Maxime, de s'en prendre aussi violemment quand même à son DTN ?
Alors la forme, je ne m'y attendais pas du tout, parce que c'est le genre de choses qui peuvent se régler en interne. Mais encore une fois, la question a été posée, donc il y a répondu. Et la violence a été même de demander pourquoi il n'y avait pas plus de bons latéraux sur la formation en France. Ce qui est aussi ce qu'il a, il a renvoyé, on va dire, Fournier dans ses pénates là-dessus. Alors déjà, moi j'ai un peu de mal avec le côté, je sais que les stades disent que les clubs français, les équipes nationales ne gagnent plus de séance de tir au but depuis belle lurette. Moi, j'ai du mal avec ça parce que je ne vois pas comment on peut comparer le cas d'un club et l'équipe nationale, une finale de Coupe du Monde. Sinon, on a qu'à dire en Coupe de France, il y a une équipe sur deux qui les perd aussi. Donc voilà, dans ce cas-là. Bon, j'exagère, mais je ne suis pas loin de penser ça. Je veux dire, si vous voulez savoir comment tirer les pénalties, vous demandez à Nantes en Youth League. Ils ont passé 4 tours de suite cette année en gagnant 4 séances de tir au but.
Ben voilà, c'est bon. Merci, Maxime.
Il faut aller voir à Nantes comment ils font, les jeunes, parce qu'ils y arrivent en tout cas. En fait, je suis partagé parce qu'il y a une partie du discours de Didier Deschamps qui est réelle, encore une fois, et pour en avoir déjà parlé avec des anciens pros, c'est vrai, c'est impossible d'imaginer ce que c'est, ce que vous ressentez quand vous vous retrouvez à tirer un pénalty devant un virage plein en finale de Coupe du Monde, en imaginant le poids que vous avez sur les épaules. Maintenant, ça, il n'empêche que ce n'est pas peine d'être borné, de se dire on ne les travaille pas ou c'est une loterie. parce que ça, ça n'a pas de sens. Je me souviens de l'avant-finale de la Coupe du Monde 2018 où Didier Deschamps avait eu les mots qu'il tient toujours, c'est-à-dire c'est pas réplicable ce que vous ressentez, 120 minutes dans les jambes, la pression des spectateurs, l'enjeu, etc., la météo, ça n'a rien à voir, donc ça ne sert à rien de les travailler. Non, ça, je suis pas d'accord. Quand Griezmann, deux jours avant France-Pologne en 2022, avant le huitième final, dit non, on n'a pas travaillé sur le but, peut-être aujourd'hui, ça dit que en fait, ils prennent ça un peu à la légère, voilà. Or, je pense que si c'est pas, je pense qu'il n'y a pas une solution miracle et une solution nationale pour régler ça. Je pense en effet que ça a le mérite d'être travaillé. Et je dirais qu'il y a une chose très simple, c'est pas tant du côté des tireurs, même si je pense qu'on peut les aider psychologiquement. C'est le travail, moi, pour moi, autour des gardiens. Je pense que c'est aussi pour ça que je pense qu'il y a eu la sortie de Deschamps. Franck Rabiot, entraîneur des gardiens de l'équipe de France, n'a pas forcément bien pris la sortie de Fournier parce qu'il s'est senti tout de suite touché, puisqu'on regarde souvent, plus souvent du côté du gardien qui n'arrête pas les pénaltys. Et lui, pour le coup, pendant plus de 10 ans, en équipe de France, il a eu un gardien qui n'aimait pas ça. Et en fait, ce qui était un peu touché du doigt, en filigrane, c'est de dire pourquoi Lloris n'était pas plus performant. Et en fait, Didier Deschamps, lui, il est de l'école des années 80-90. Il a eu dans l'équipe de France un gardien qui s'appelait Fabien Barthez, qui un jour de quart de finale de Ligue des Champions a envoyé bouler l'entraîneur des gardiens Philippe Bergerot, qui est arrivé avec une liste des tireurs italiens en lui disant « Tiens, il tire là comme ça. » L'autre, il a dit « Ta liste, hop, il l'a balancé. » Résultat, ils ont gagné la séance. Donc, si vous êtes un bon gardien avec de l'instinct, je pense que vous pouvez y aller, vous passer un petit peu de ça, même si, encore une fois, si on vous monte une image en vous disant ce tireur-là tire 9 pénaltys sur 10 à droite, donc t'aurais intérêt à partir à droite, autant le faire, c'est mathématique. Mais quand vous avez un gardien comme Lloris, évidemment, là, vous devez travailler beaucoup plus ça. Donc je pense que au-delà peut-être d'une inimitié qu'il a avec Hubert Fournier, il y a peut-être quelque chose aussi plus de personnel, il n'a pas raison, du moins, de se sortir de cette réflexion-là. Il peut en faire ce qu'il en veut. Je pense que oui, un pénalty, comme tout, on travaille bien les corners. Un corner, par exemple, en match, on sait que c'est l'action arrêtée la moins efficace possible. Pourtant, les corners sont travaillés. Bah, faisons pareil avec les pénaltys.
C'est marrant que tu t'aies pris l'analogie avec Fabien Barthez, parce que je trouve que ça trahit assez bien la position de Deschamps là-dessus. Où c'est pas qu'il refuse le modernisme, mais il confie trop à son passé de joueur. C'est-à-dire que sur ces phases-là, il y a eu une vraie révolution, il faut le dire, sur les coups de pied arrêtés, sur les pénaltys, sur les tirs au but. Il y a eu une professionnalisation dans tous les clubs et dans tous les secteurs footballistiques qui est révolutionnaire sur les 20 dernières années. Ne pas vouloir voir ça, c'est passer à côté d'une certaine vérité. Et évidemment qu'il y a une part de hasard, une part de chance, une part de voilà, quand on refait le film de la finale 2022, on l'a dit, le nombre de changements, enfin, il y a des choses qui sont imprévisibles. En revanche, on peut réduire au maximum le hasard. C'est le principe même de ces départements-là qui bossent beaucoup. Et nier ça, c'est un petit peu... c'est un petit peu pas... Ne pas vouloir faire confiance aux gens dont c'est le métier. Tu parlais des coups de pied arrêtés. Il y a des gens, maintenant, leur boulot, c'est quasiment à 100% de regarder ça. Donc, j'ai un peu du mal à comprendre la déclate d'échange. Je trouve que c'est un peu facile de s'arrêter à ce constat-là. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est presque au niveau du gardien que ça se travaille plus. Alors, peut-être qu'on n'aura plus ces débats-là dans 5 ans quand Mike Maignan nous aura fait gagner des séances de tir au but. Mais... quand on voit la séance de tir au but 2022, si Martinez la gagne, c'est pas parce qu'il est plus technique que Lloris, c'est simplement que il a une personnalité bien plus clivante, bien plus offensive dans cet exercice-là. Et ça aussi, ça se travaille. Et pour avoir étudié le cas Martinez par le passé, il a travaillé énormément là-dessus. Il a tenté des choses. Il a provoqué les différents adversaires qu'il a pu croiser. Ça, on n'a jamais voulu faire ce travail-là avec Hugo Lloris parce qu'on se disait, Hugo, il fonctionne comme ça. On va pas brusquer Hugo et voilà, c'est un style de management. Je remets pas ça en cause, mais peut-être que on aurait pu se dire, tiens, quand même, est-ce qu'on pourrait pas essayer des choses? Moi, j'ai l'impression quand même sur ce débat-là avec les Bleus sur les 10 dernières années, non pas qu'on ne fait rien, mais qu'on n'a rien testé de très nouveau.
Non, mais en plus, Martinez, c'est un cas à part parce qu'il a un caractère comme ça. Et c'est comme si moi, vous me demandez de faire du Martinez sur ma ligne de but.
Oui, voilà.
Ça fera pas. Je vais être
ça
ridicule,
marchera pas.
Voilà. Et Lloris aurait été ridicule. En revanche, une fois qu'on sait qu'un gardien n'est pas forcément performant, que ce n'est pas un exercice qu'il apprécie, l'accompagner. Et c'est vraiment ce que tu disais sur la data et tout ça. C'est vraiment deux écoles. L'école Deschamps qui est beaucoup plus à l'instinct et managérialement proche des hommes
Mais qui a un ressenti d'ancien joueur aussi, qui est très intéressant à avoir.
Et je pense qu'il y a aussi un accès aux data, évidemment, qui les consulte. Sauf qu'il va aller moins loin qu'à en parler de Farioli tout à l'heure. Voilà.
Ouais, voilà.
Et je ne suis pas sûr que Farioli ait raison. Hein, parce que le modernisme à tout prix, je ne suis pas sûr non plus que ça fonctionne bien. Et je le répète, vous allez donner demain, je vais donner maintenant l'exemple inverse de ce que je vous disais tout à l'heure. Si je vous donne une liste des tireurs de tel pays, dire celui-là, il tire 9 fois à gauche, une fois à droite. Peut-être que contre vous, il va tirer à droite. Mais sauf que la multiplication des infos va faire qu'à un moment, c'est mathématique, vous allez tomber bon. Donc voilà, et vous pouvez aussi partir du bon côté et pas toucher le ballon. Je veux dire, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte dans un pénalty. C'est pour ça que c'est très complexe à analyser. Mais n'empêche que vous pouvez aider et les outils existent. Regardez maintenant qu'on va regarder une retransmission. Moi, j'adore quoi, une retransmission. Il y a un pénalty, vous voyez les points verts où ouais. Tirer le joueur. Ben, c'est marrant de me dire, bon, est-ce qu'il va faire comme d'habitude ? Voilà, c'est un jeu de bluff, etc. Et évidemment que le gardien doit aussi parfois faire confiance à son instinct, parce que si on lui dit c'est 9 fois à droite, une fois à gauche, mais ouais. Moi là je sens qu'il faut que je parte à gauche, mais qu'il le fasse, faut surtout pas le brider là-dedans. Mais quand vous êtes un gardien qui n'a pas une appétence pour les pénaltys, comme pour tout, faites-vous aider. Et c'est vrai que ça a été pris à la légère de ce côté-là, ça c'est certain.
À cet égard, on vous conseille une interview de Christophe Loulichon qui a été faite il y a quelques mois par Martin, qui expliquait, qui revenait sur la séance décisive de Petr Cech, c'est en finale 2012 de Ligue des Champions, où grosso modo, bah, ils avaient bossé comme des morts de faim pendant des jours avant la finale pour préparer ça, que Petr Cech, grosso modo, c'était un ordinateur qui avait tout retenu. Bah, au final, ça fait gagner. Alors l'histoire, elle est belle, ça participe au storytelling, mais ce qui veut dire que c'est possible d'avoir une action là-dessus. Voilà, c'est ça la vraie chose à retenir, et que le discours de Deschamps laisse croire que finalement on peut essayer des choses mais il ne sera pas un vrai effet. Non, il y a possibilité d'avoir un effet peut-être plus sur le gardien que sur les tireurs.
Et la même histoire, c'est toujours Chelsea, c'est la finale 2008 où il y avait un analyste, un universitaire qui analysait des milliers de tirs au but, qui avait tout ça dans une machine, qui avait envoyé ça à Avraham Grant parce qu'il le connaissait. Et ils avaient vu que Van der Sar partait toujours, je crois, côté opposé. Enfin, je ne sais plus exactement. Et en fait, tous les joueurs, sauf un, s'étaient évertués à faire ce qu'on leur avait dit de faire. Et quand vous regardez la séance, c'est marquant. Ils ont vraiment suivi à la lettre, sauf un, c'était Nicolas Anelka qui avait raté son penalty.
Et ben voilà, comme quoi. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour, ouais. Maxime.
Le problème n'est pas réglé.
Le problème n'est pas réglé, mais bon.
Et en plus, alors je finis là-dessus. Plus vous allez perdre de séances de survie. Oui. C'est comme les Anglais.
L'Angleterre, c'est
voilà.
Ça.
Il y a une psychose qui vient, mais on l'a perdu. Et en fait, d'un seul coup, vous vous dites ah, mais là, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Et c'est pour ça qu'il faut éviter de tomber là-dedans. C'est pas encore dramatique pour l'équipe de France, mais c'est vrai qu'il y a quand même deux finales de Coupe du Monde qui s'envolent.
Ouais.
Il y a une finale. Comment dire ?
Les Bleus récemment.
Oui, il y a la demi-finale de l'Euro 96.
Ouais.
Oui, évidemment, j'y étais. Huitième de finale contre la Suisse. Voilà, donc c'est vrai qu'à un moment. Il faut au moins, même si vous n'y croyez pas, essayer de trouver une solution et de la chercher.
Mais pour en avoir parlé beaucoup avec des entraîneurs, des gardiens, et notamment le Christophe Loulichon, hein, le profil de Mike Maignan peut laisser penser que voilà, on est quand même sur un gardien qui adore l'exercice, qui adore le duel justement, et ce duel un peu psychologique. On est plus sur Mike Maignan est plus proche d'un Emiliano Martinez que d'un Hugo Lloris dans ce domaine-là. Donc bon. Wait and see, on verra. On espère que
début de réponse
Magic Mike saura nous trouver les bonnes réponses. On va rappeler, Maxime, que le FC Stream Team est donc à retrouver tous les vendredis sur vos plateformes d'écoute. Vous tapez Eurosport FC et vous aurez aussi le lundi Tour d'Europe. Et puis les meilleurs moments de l'émission, c'est sur Eurosport.fr et sur l'application.
C'est ça, on remercie Simon Farvac à la technique et à la réalisation.
Quentin Guichard au visuel.
Et puis voilà.
Et on dit bonnes vacances à ceux qui sont en vacances ou en week-end.
Moi, j'ai l'impression que les gens doivent se dire le journaliste, c'est un métier où tu
c'est vrai, c'est un beau métier. Travail.
Alors, c'est un beau métier, mais je tiens à dire qu'il n'y a pas plus de vacances que de jours travaillés. Voilà.
Salut tout le monde.
Salut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.